Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 15h en temps universel, 16h à Paris et 17h à Goma. Le journal vous est présenté par Victor Messistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une, la situation à l'est de la RDC. À Goma, l'une des plus grandes villes du pays, des tirs résonnent dans plusieurs quartiers de la ville alors que le gouvernement congolais a reconnu la présence du groupe armé M23 appuyé par l'armée rwandaise. Les habitants vivent dans la peur. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, la découverte du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Parmi les déportés, certains étaient chargés de manipuler les cadavres. À suivre, le témoignage du fils de l'un de ces hommes forcés à prendre part à ce théâtre macabre. Et puis jour de rentrée scolaire à Mayotte, les élèves de l'archipel français de l'océan Indien ont repris le chemin des cours 6 semaines après le passage du cyclone Chido. Un retour en classe dans des conditions dégradées, c'est ce qu'explique le recteur de l'académie de Mayotte. Des coups de feu résonnent encore cet après-midi dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Les hommes du M23 soutenus par le Rwanda sont entrés depuis hier et contrôlent plusieurs quartiers de la ville. C'est l'une des plus grandes de la République démocratique du Congo où vivent 1 million de personnes et plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux. Des habitants qui vivent dans la peur, la crainte, le sentiment d'abandon aussi. Écoutez ces témoignages recueilli en fin de matinée dans ce sujet de Guillaume Thibault.
Rester caché dans les maisons, sous les lits pour éviter les balles perdues, avec la peur au ventre depuis l'entrée des éléments du M23 dans Goma, raconte cet habitant.
Donc la tension elle est palpable, la peur elle est visible dans le regard de tout le monde. On ne sait pas ce qui va se passer, il y a la guerre, il y a des échanges des tirs, des armes lourdes, il y a la présence des rebelles qui sont visibles dans la ville et voilà.
Dans la nuit de dimanche à lundi, les habitants ont entendu des tirs sporadiques d'armes automatiques. Et les habitants s'inquiètent particulièrement pour les blessés.
Parce qu'il y a aussi des victimes qui succombent malheureusement de leur blessure suite aux balles perdues. Et jusqu'à ce matin, avant midi à Goma, il y a toujours des coups de balles.
Isolé, cet habitant du centre-ville, avec ses parents, ses enfants, est tout simplement inquiet et souhaite un cessez-le-feu.
2 minutes c'est calme, 2 minutes c'est chaud et ça continue d'être chaud chaque seconde. Ce qui empire la situation sont des bombes. Ici, c'est la ville. Il y a des bâtiments, il y a tout. Alors, nous sommes, en tout cas, dans une très mauvaise situation. On aurait bien aimé qu'il y ait quand même le cessez-le-feu.
L'inquiétude, la peur donc pour les habitants de Goma qui vivent sans électricité et sans eau depuis la fin de semaine dernière et ont des difficultés pour se ravitailler.
Et à l'instant, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Cher Ould Razouani, se dit gravement préoccupé par la situation dans l'Est congolais. Il appelle au respect du droit international humanitaire, à l'arrêt des hostilités et à la reprise des négociations. Leur libération s'intègre dans la première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. 8 otages sont morts, annonce le porte-parole du gouvernement israélien. Cela signifie que sur les 26 otages qui doivent être ramenés de la bande de Gaza. Seuls 18 sont encore en vie. Cette annonce d'Israël fait suite à une précédente dans laquelle le pays annonçait détenir une liste qu'il exigeait de longue date au Hamas sur le statut de la totalité des otages vivants ou morts. C'est dans ce contexte que des centaines de milliers de déplacés palestiniens reviennent depuis ce matin dans le nord de Gaza. Un passage rendu possible par un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas. Au Liban, de nouvelles victimes parmi les habitants qui tentent de revenir dans leur village frontalier au sud du pays. 1 mort et 7 blessés aujourd'hui, indique le ministère libanais de la Santé. Il avait annoncé hier la mort de 22 personnes à la suite de tirs de l'armée israélienne. Celle-ci appelle les habitants du sud à attendre avant de revenir.
RFI.
La cérémonie vient de débuter en Pologne en présence de 54 délégations internationales. Le Monde commémore ce lundi les 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz par l'armée rouge de l'URSS. Il s'agissait du plus vaste camp de la mort de l'Allemagne nazie. Plus 1 million de personnes y ont été tuées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Des personnes déportées étaient sélectionnées pour prendre part à ces assassinats. Des groupes nommés Sonderkommando. Ils étaient chargés de manipuler les cadavres des autres victimes tuées. Parmi eux, le père de Roger Feinzilberg, l'un des seuls survivants de ces groupes. Il a tout documenté dans des carnets que publie aujourd'hui son fils, Roger Feinzilberg, l'invité d'RFI Midi. Je vous propose de l'écouter.
Il a été affecté pendant 18 mois dans le Sonderkommando du Birkenau comme quasi-esclave chargé de sortir les corps des chambres à gaz une fois qu'ils étaient morts, de les dépouiller de ce qu'ils pouvaient rester éventuellement comme objet de valeur sur ces dépouilles, sur ces cadavres, notamment les dents en or, notamment les cheveux des femmes que l'on rasait pour pouvoir utiliser ses cheveux dans l'industrie allemande, et ensuite de faire disparaître les corps. Donc avant que n'existent les crématoires, ils étaient empilés dans des fosses, brûlés et recouverts de chaux vives, et puis ensuite enfournés dans les crématoires 24 heures sur 24, qui fonctionnaient au rendement le plus élevé, parce que les Allemands avaient besoin de faire de la place pour pouvoir brûler d'autres corps.
Extrait de l'entretien de Roger Feinzilberg au micro d'Anne Kantner dans RFI Midi, et puis sur RFI.fr et notre application. Je vous invite à écouter ou réécouter le grand reportage du jour. Notre envoyé spécial Baptiste Coulon s'est rendu dans le camp d'Auschwitz dans le cadre d'un voyage scolaire de jeunes lycéens français. La crise n'aura duré que quelques heures. Le président américain Donald Trump a rapidement suspendu sa menace d'imposer une série de sanctions économiques contre la Colombie. Bogota a accepté ces conditions pour le rapatriement d'immigrés colombiens expulsés par les États-Unis. L'incident donc est clos, selon le ministre colombien des Affaires étrangères. Ce week-end, le président Gustavo Petro avait interdit l'atterrissage de deux avions militaires transportant des immigrés expulsés par les États-Unis. De quoi susciter la colère du président américain qui a donc brandi la menace de sanctions contre le pays. Bonjour Enver Dagué.
Bonjour.
Alors Anne, il est un peu plus de 10 heures à Bogota et la presse colombienne dans les journaux, on est divisé sur la façon dont Gustavo Petro a géré la situation.
Mais oui, cette situation sans précédent dans l'histoire des relations entre les deux pays aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour la Colombie, estime Semana. Le journal reprend notamment les messages tweetés par le président colombien à son homologue américain dans lesquels il use d'un ton agressif qui aurait pu conduire à un point de non-retour. Le quotidien rappelle que le président Gustavo Petro est déjà très impopulaire dans son pays et que sa réaction aurait pu conduire la Colombie dans une situation désastreuse. Donald Trump a en effet menacé de relever les droits de douane de 25 à 50% d'ici une semaine et d'opérer des sanctions contre la délivrance de visas aux Colombiens. En seulement quelques heures, la relation binationale entre la Colombie et les États-Unis a été chamboulée, explique l'éditorialiste d'El Espectador, mettant en danger la stabilité commerciale du pays et accessoirement les visas de millions de Colombiens. Quant à El Tiempo, le journal parle d'une crise monumentale entre les États-Unis et la Colombie, se posant la question de savoir si elle est vraiment terminée.
Anne Verdaguer, merci pour ces précisions. 6 semaines après le passage du cyclone Chido, c'est jour de rentrée des classes ce lundi à Mayotte. Les quelques 117 000 élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi, dans des conditions souvent dégradées en raison de cette catastrophe climatique. Reprise des cours donc pleine d'incertitudes. Alors que le taux de natalité est très élevé dans cet archipel français de l'océan Indien, Jacques Mikulovic, recteur de l'Académie de Mayotte, revient sur ce contexte en cette rentrée scolaire.
RFI. Il y a une pression démographique qui se traduit par des écoles qui sont en nombre insuffisant pour accueillir tous les élèves dès la maternelle. Que avant Chido, 70% de nos écoles du premier degré étaient en rotation, c'est-à-dire que dans un bâti scolaire, on met deux écoles. Et au niveau des collèges et des lycées, on a un taux d'occupation qui avoisine les 130%. Et là, le cyclone, en gros, a amputé de 30% notre capacité d'accueil. Donc ça veut dire que ça nécessite de nous réorganiser pour pouvoir accueillir tous les élèves. Sur 33 établissements du second degré, on a imaginé éventuellement mettre des tentes dans un des 33 établissements. Et puis, sur les 17 communes, il y a peut-être 2 communes qui vont avoir recours aux tentes. Mais ce qu'on privilégiera, c'est plutôt une adaptation de l'organisation pédagogique en renforçant les rotations. Ça semble être plus rassurant.
Vous venez d'entendre Jacques Mikulovic, le recteur de l'Académie de Mayotte, joint par Laurence Théo. Il est bientôt 15h10 en temps universel et comme chaque jour, on retrouve Nathalie Amar sur le Pont des Arts.
Bonjour Victor Missistrano et à tout à l'heure. Sur le pont des Arts, ça démarre dans 30 secondes.